Alors on va prier pour débuter ce matin. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Aujourd'hui Seigneur, on commémore, au moins pour le Québec et le Canada, on commémore une année complète passée Seigneur sous les affres de la pandémie. Une année à travers laquelle Seigneur, tu as été fidèle envers nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as fortifiés. Et même dans les moments, Seigneur, d'inquiétude pour certains, dans les moments de découragement pour d'autres, dans des moments, Seigneur, où la déprime venait frapper, et ça a été pour plusieurs d'entre nous, tu as été fidèle. Tu as suscité, Seigneur, des occasions de nous réjouir tous ensemble. Tu as suscité des occasions de partage, mais tu as aussi particulièrement suscité des occasions où nous pouvions prier, intercéder et approfondir, Seigneur, notre connaissance dans ta parole, notamment, Seigneur, avec ces rendez-vous quotidiens, des bénédictions matinales. Alors, Seigneur, en dépit des difficultés de cette année, en dépit, Seigneur, des exigences toutes particulières de cette année, nous voulons te dire merci parce que tu as été fidèle au rendez-vous. Tu nous as bénis, tu nous as instruits. Pour plusieurs, ça a été une année aussi d'introspection, une année de remise en question, une année d'engagement aussi à ton égard, comme si tu préparais l'Église pour cette année du Jubilé. Alors Seigneur, oui, on te dit merci. On te demande aussi, Seigneur, d'étendre ta main sur toutes ces familles qui ont eu un être cher qui est passé dans l'éternité en raison de la COVID. Toutes ces personnes qui encore aujourd'hui ont un proche ou une proche, Seigneur, dans les soins intensifs à l'hôpital. Peut-être même sortis de l'hôpital, mais toujours, Seigneur, affaiblis par les séquelles et les conséquences de la COVID. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier chacun d'entre eux, de rétablir chacun d'entre eux et de permettre, Seigneur, à ces personnes de trouver aussi le réconfort, le soutien que nous avons nous aussi auprès de toi. Alors merci, Seigneur, de te révéler à chacun d'eux et merci, Seigneur, de bénir tous nos concitoyens en cette journée, Seigneur, où nous marquons un an, Seigneur, de COVID-19, un an de pandémie. On veut aussi, Seigneur, de façon toute spécifique, te demander de nous instruire et de nous parler. Ce matin, tu vois, Seigneur, les mots que tu as préparés, nous voulons les entendre. Les phrases, Seigneur, que tu as préparées, nous voulons les entendre. L'enseignement que tu as jugé bon pour nous aujourd'hui et que tu as préparé de toute éternité, nous ne voulons pas passer outre. Permets-nous, Seigneur, de saisir pleinement. Et arrose, Seigneur, les paroles qui vont être prononcées avec l'onction de ton esprit, afin, Seigneur, que ces paroles puissent même prendre de l'expansion dans nos pensées, qu'elles aillent toucher des secteurs de vie, même qu'on n'aura pas mentionné, mais que tu sauras, Seigneur, comme important dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Alors pousse plus loin les paroles qui vont être prononcées ce matin. Répands encore davantage ta grâce. Et permets-nous, Seigneur, d'être les hommes, les femmes, les serviteurs, les servantes que tu désires, être de dignes représentants du royaume des cieux. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous, toujours dans Lévitique, au chapitre 25, et le verset 10 qui est notre source de réflexion cette semaine. Et Lévitique 25, 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Je répète. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Encore un sujet intéressant aujourd'hui. Hier, on parlait notamment du retour. retour à la maison, retour dans nos propriétés. Et on a vu dans le partage d'hier que le retour, c'était donc qu'on avait quitté le point initial, qu'on se trouvait quelque part à un moment donné et qu'on a dévié de cet endroit et que le Seigneur nous appelle, nous invite, nous exhorte à retourner à ce point de départ. Point de départ qui est en fait une relation intacte avec Christ. Et ce faisant, Dieu rétablissait en revenant dans notre propriété, en revenant là où nous devions être, le Seigneur rétablit le potentiel initial qu'il avait investi en nous, qu'il nous avait octroyé. Il rétablit aussi nos privilèges et nos droits initiaux, et il rétablit aussi les promesses et sa provision sur nos vies. Ce matin, on pousse la chose un peu plus loin. Après un retour sur le terrain, un retour à la propriété, on parle ce matin d'un retour à la famille. Le verset le disait clairement, vous retournerez, chacun de vous retournera dans sa famille. Donc le jubilé comme synonyme de retour dans sa famille. Je rappelle les mots importants, le jubilé, le yobel, Y-O-W-B-E-L. Vous savez que ça veut dire un bélier ou la corne d'un bélier ou la trompette liturgique qu'on utilisait lors du jubilé. Retourner qu'on a étudié hier, shob, S-H-U-W-B, qui parle de revenir, ramener ou retourner. Donc il y a cette idée d'avoir quitté et de revenir au point de départ. Et le terme famille, un nouveau terme pour nous aujourd'hui, mishpakar. Mishpakar, donc M-I-S-H-P-A-C-H-A-H. Je répète, M-I-S-H-P-A-C-H-A-H. Et quand on parle de Mishpakar, on parle donc du clan, on parle de la famille, on parle de la tribu, du peuple ou de la nation. Donc c'est dépendamment la grosseur de l'entité vers laquelle on retourne. On va dire que c'est donc une famille, un clan, une tribu, un peuple ou une nation. Bien sûr, il y a une distinction entre le peuple et la nation étant les habitants d'un territoire, alors qu'un peuple est les gens qui partagent une même culture, une même langue et une même histoire, et il peut y avoir plusieurs peuples dans un même territoire. Donc, au niveau d'une nation, il peut être constitué de plusieurs peuples, un peu comme le Canada, dont on dit qu'il y a deux peuples créateurs ou deux peuples à l'origine du pays. En fait, il y en a trois, et plus que ça, puisque les Premières Nations constituent chacune d'entre elles des peuples distincts les uns des autres, mais sinon, au niveau de des nations populeuses d'aujourd'hui, on va dire. Donc le Canada va avoir le groupe anglophone et le groupe francophone. Lorsqu'on parle donc d'un retour à la maison, d'un retour à la famille plutôt, on parle d'un retour vers des personnes. Et on va voir quelles sont ces personnes et quelles sont les conséquences d'un retour vers ces personnes. Alors bien sûr, on va faire le lien, comme on l'a fait hier, avec le retour du fils prodigue vers son père, vers la maison de son père. Et on va voir comment on peut l'illustrer pour nous, ce que ça représente au niveau spirituel. Vous savez que le jubilé était la 50e année du calendrier juif, qui se répétait donc à tous les 50 ans, après cette blotte de 7 ans. Mais spirituellement, pour nous, le jubilé est un peu notre accession à Christ, notre découverte du Seigneur et notre proximité de Dieu. Donc, lorsqu'on parle d'un retour à la famille, on parle bien entendu d'un retour vers le Père. Le fils prodigue, lorsqu'il se retrouve dans la mare avec les pourceaux et qu'il se dit « Mais les serviteurs de mon père vivent bien mieux que moi. dans la maison de mon père, alors moi je quitterai et je retournerai à la maison de mon père. Il parle donc de retourner non seulement dans la maison, donc dans l'endroit où le père domine, mais aussi auprès de la personne même que représente son père. Donc un retour auprès du père, c'est un retour auprès de notre Seigneur. Il est trop malheureux de croire et de céder aux mensonges du diable qui nous laisse croire que lorsqu'on a quitté Dieu, lorsqu'on a rétrogradé dans notre vie chrétienne, qu'il serait impossible de retourner à Dieu. Notre Père céleste, tant que nous avons le souffle de vie, est prêt à nous accueillir et à nous recevoir. Et la Bible nous dit que « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. » Ce verset-là, on oublie très régulièrement que c'est adressé à une église de l'Apocalypse. Donc, ça veut dire à des croyants. Ça veut dire que dans certains cas, il peut arriver effectivement que notre relation avec Dieu soit esquintée, soit rompue, et que Dieu soit exclu de notre maison, exclu dans ce cas-ci de notre salle à manger, de notre cuisine, et qu'il se tienne à la porte et qu'il frappe, en disant « Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. » Dieu ne défonce pas les portes. Dieu ne défonce pas les portes que nous lui fermons. Dieu frappe à la porte et il entre quand nous lui permettons d'entrer. Ça fait partie de la nature même de Dieu. Ce n'est pas un inquisiteur, ce n'est pas un dictateur, c'est quelqu'un qui a de la classe, c'est quelqu'un qui est un gentleman. Donc, il frappe et si tu n'ouvres pas, il ne peut pas, il ne veut pas, il ne rentrera pas. Dieu ne rentre que si tu ouvres la porte. Voilà pourquoi les accusations de l'ennemi comme quoi Dieu est un dictateur qui ne veut pas te permettre. Depuis le départ, l'homme a été créé avec un libre arbitre. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ce fruit-là parce que le jour où vous en mangez, vous mourrez. Mais il ne les a pas empêchés d'en manger. Il leur a interdit, mais pas empêchés. Dieu aurait pu, pour les raisons qui sont les siennes, il aurait pu décider, je claque des doigts, et à partir de ce moment, ils ont un dégoût inné par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je fais disparaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce faisant, ça aurait été une imposition et non pas un choix délibéré d'Adam et Ève d'obéir au commandement, d'obéir aux exigences de Dieu. Donc depuis le départ, nous sommes effectivement libres d'obéir ou de désobéir. Voilà pourquoi Paul va dire « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Paul est en train de dire « Moi, je suis capable de faire tout. Là. Je peux faire tout ce qui est bien, comme je peux faire tout ce qui est mal. Mais je vais décider de ne pas me faire asservir, de ne pas devenir l'esclave du péché. » Choix que Adam et Ève n'ont pas fait. Mais lorsqu'on retourne auprès du Père, on retourne aussi par rapport aux directives et on retourne aussi par rapport aux exigences du Père. Lorsque le fils prodigue revient vers la maison de son Père, il va vivre avec les us, les coutumes, les pratiques de la maison de son Père. Bien que j'ai quitté chez mes parents depuis que j'avais l'âge de 17 ans, en fait, j'ai quitté la France, j'ai laissé mes parents en France avec ma sœur lorsque j'avais 17 ans et je suis revenu au Québec habiter par moi-même, ici même au Québec. Mais lorsque je suis retourné visiter mes parents chez eux, je suis retourné chez eux. Donc je me suis soumis aux règles de chez eux, je me suis soumis aux pratiques de chez eux. Lorsque je vais visiter mes parents, et certains vous diront, mais ouais, mais là aujourd'hui tu es le pasteur de tes parents. Officiellement, je le suis effectivement, et je sais que mes parents me regardent comme leur pasteur, et ils reçoivent mes enseignements et mon apport à leur égard comme pasteur. Mais quand je me présente chez eux dans le privé, je me soumets aux règles qu'il y a chez eux. Donc si le repas, eux ont décidé de le prendre à 8 heures, ben, et que j'arrive à 5 heures, je vais attendre jusqu'à 8 heures pour manger. Si eux ont décidé qu'aujourd'hui on mangeait du poulet, ben, je ne vais pas leur dire non, on va manger du porc. On va manger ce que eux ont décidé parce que c'est leur maison. Donc lorsque je retourne au Père, il y a cette idée aussi de retourner sous la tutelle et de retourner sous l'autorité de Dieu. Certaines personnes retournent à Dieu comme si c'était une grâce qu'ils faisaient à Dieu. Je vais te faire plaisir, je vais retourner vers toi. Sachant que lorsqu'on retourne vers lui, c'est nous qui nous bénissons. C'est lui qui est là comme étant la source absolue de grâce, de pardon, de miséricorde et de bénédiction pour nous. Mais certaines personnes se comportent soit avec Dieu comme d'égal à égal, en disant je reviens à la maison, mais on va faire comme moi j'ai envie. Et ils oublient cette question de je reviens dans la maison de mon Père et me remets sous la tutelle, sous la directive, sous les règles de mon Père. Et voilà pourquoi tu ne peux pas revenir à moitié vers Dieu. Je sais que lorsque moi je suis retourné dans les voies de Dieu, je vous ai déjà expliqué qu'à un moment donné j'ai dit au Seigneur, regarde mon dos parce que c'est la dernière chose que tu vois, je m'en vais. Je m'en vais de toi, je te fuis, je te quitte, je te laisse. J'avais même des termes un peu plus crus que ça. J'ai dit à Dieu, je te largue, je m'en vais, je me barre. Et je suis parti, mais lorsque je suis revenu à Dieu, je comprenais qu'en revenant vers lui, je devais aussi me soumettre à sa parole. Donc accepter peut-être des choses que j'avais refusées précédemment, me soumettre à des choses par rapport auxquelles j'avais été rebelle ou insoumis jusqu'à présent, je ne pouvais pas revenir à Dieu puis commencer à argumenter, à parlementer avec lui en disant, bon, mais j'aimerais que tu adoucisses tel point, parce que sinon je ne reviens pas. Lorsque je reviens à Dieu, je reviens à lui en me soumettant pleinement à sa volonté. Et ça doit être compris par toi et par moi. Si quelqu'un est aujourd'hui dans ce processus de retour à Christ, si quelqu'un à travers les dernières semaines ou les derniers mois a pris cette décision de revenir à Christ, tu dois comprendre que revenir à Christ, revenir à Dieu, c'est aussi te placer sous l'autorité de Dieu. Donc le Père reprend sa place. Au même titre où toi tu reprends ta place de fils, ben, le Père, tu lui réoctroies sur ta vie le rôle de Père, le rôle de papa, le rôle de conducteur, le rôle de leader par rapport à ta vie. Mais retourner auprès du Père, et on sait que notre Père va nous accueillir majestueusement. La parabole du fils prodigue, c'est ce Père qui court vers lui lorsqu'il voit son fils qui est en train de revenir. Il voit à peine la silhouette au loin et il sait que c'est son fils. Et c'est un peu l'image qui dit, je viens auprès de toi. Et ne t'inquiète pas, tes derniers pas jusqu'à la maison, je vais les faire avec toi. Je vais assurer ton retour à la maison. Je vais faire en sorte que ce retour soit optimal pour toi. Et il va panser les plaies de son fils, il va nettoyer son fils, il va changer la tunique de son fils. On se rappelle qu'il va remettre des sandales aux pieds de son fils, qui était donc devenu esclave et qui est libéré maintenant. Son père s'engage à la franchir et il remet à son doigt un anneau qui le rétablit, qui rétablit ce fils dans l'autorité familiale qui était la sienne auparavant. Donc, un retour par rapport au père, mais un retour à la maison veut aussi dire un retour parmi la fratrie, parmi tes frères et tes sœurs. Tu ne peux pas retourner à Christ sans retourner à l'Église. Christ et l'Église sont indissociables. La Bible nous dit qu'il est la tête et que l'Église est le corps. Tu ne peux pas séparer une tête d'un corps. Une tête sans corps, c'est un corps qui est mort, et c'est une tête qui est morte aussi. Dieu est lié, Jésus est lié à l'Église, et tu ne peux pas séparer Christ de l'Église. Alors quand tu retournes à Christ, quand tu retournes vers ton Seigneur, tu dois nécessairement retourner aussi vers l'Église. J'entends parfois des gens, oui, maintenant je suis en règle avec le Seigneur, mais ils ne fréquentent pas l'Église, mais ils n'ont aucun lien avec l'Église locale, ils n'ont aucun lien avec leurs frères et leurs sœurs. Tu ne peux pas vivre en autarcie dans le corps de Christ. tu ne peux pas vivre indépendamment du restant du corps de Christ. En partant, tu n'es qu'une particule de ce corps-là. Peut-être es-tu un doigt, peut-être es-tu une main, peut-être es-tu un pied, mais un pied détaché du corps, le corps peut continuer à vivre, mais pas le pied. Un doigt détaché du corps, la main, le bras, l'ensemble du corps peut se guérir, peut panser la plaie, peut continuer à vivre, mais toi, séparé du restant du corps, toi qui serais peut-être l'auriculaire, donc on te coupe du corps, tu vas finir par mourir. Tu as quelques instants où on peut encore te raccrocher, où tu es encore soudable, mais après ça, tu meurs. Donc, séparé de l'Église, tu ne peux pas dire que tu fais partie de l'Église. Faire partie de l'Église, c'est être soudé et être partie prenante de l'Église. Et là, ça amène deux ou trois défis importants. Pour celui qui revient, c'est déjà un défi. Très souvent, on vit avec une certaine culpabilité, avec, et j'en ai parlé hier, le Yvon qui nous malmène tant. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et il y a des gens, à cause du Yvon, ne reviennent pas à Christ, ne reviennent pas à l'Église. Ils n'auraient aucun problème de retourner à Jésus, mais ils ont des problèmes à retourner en sentant le regard pesé sur eux de la part de leurs frères et de leurs sœurs. Et voilà pourquoi au début de la semaine, j'ai dit, on ne peut pas vivre dans la suspicion permanente, on ne peut pas vivre dans le jugement permanent. Quelqu'un qui revient à Christ est quelqu'un qui a été malmené, et quelqu'un qui a mal vécu, et quelqu'un qui a probablement pas les bons gestes, la belle tunique, le bel accoutrement que ça prend. Et c'est en retournant à l'Église, en retournant à la maison, en retournant vers la famille, que là les vêtements se changent, que les sandales sont remises, que la barbe est taillée, que les cheveux sont coupés, que le corps est lavé, qu'on prend un peu de vigueur en mangeant adéquatement. Mais c'est en retournant à la maison. Si tu ne retournes pas à la maison, tu n'es pas dans ce processus-là de retour à Christ. Donc, ça prend un effort de ta part. Et cet effort-là est toujours demandant. Retourner vers l'Église, c'est exigeant. Oui, ça peut être troublant. Oui, ça peut être inquiétant. On peut s'inquiéter effectivement de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont faire, des questions que les gens vont poser. C'est pour ça que régulièrement, je dis à l'Église, regardez, quand vous allez voir des gens réintégrer l'Église, arrêtez d'essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait puis où ils étaient pendant toutes ces années-là. C'est déjà une belle chose qu'ils soient là. À un moment donné, il y a un pasteur, il y a un ami, il y a un ancien qui sera là pour les aider. Mais est-ce que vous pouvez plutôt manifester votre affection et votre joie de voir cette personne de retour à la maison et laisser le nettoyage? C'est le papa qui a fait le nettoyage. C'est le papa qui a mis la tunique. C'est les serviteurs mandatés par le père qui sont venus laver le fils et amener la tunique pour le fils. Donc, est-ce qu'on peut servir d'un endroit avec beaucoup d'accueil pour ceux qui réintègrent Dieu et qui réintègrent l'Église? Donc oui, ça prend de passer outre nos inhibitions, ça prend de passer outre notre honte qu'on peut transporter avec nous, ça peut demander de passer outre nos appréhensions par rapport à ce que les gens pourraient ou ne pourraient pas dire. Mais de surcroît à cela, il y a ce travail de la part de l'Église. Donc de part et d'autre, le travail de la personne qui revient, tout comme le travail de la personne qui accueille. Un jour, j'entendais quelqu'un qui prêchait justement sur la parabole du fils prodigue, et c'est une image qui m'est restée profondément ancrée dans le cœur, profondément tatouée dans le cœur. Le prédicateur disait, le problème avec l'Église, c'est pas le père va accueillir adéquatement, mais il y a des gens qui ne reviennent pas à l'Église à cause du frère aîné. Si le frère aîné avait été la première personne que le fils prodigue avait rencontrée, si au lieu que ce soit son père, ça avait été son frère aîné qui l'avait accueilli, je suis pas certain que le fils prodigue serait revenu jusqu'à la maison. Je suis pas certain qu'il aurait été réintégré dans ses positions. Le fils aîné a été frustré de voir le fils prodigue revenir et de voir toute la fête qu'on faisait par rapport à son retour en disant « Mais il a dilapidé l'argent de mon père avec des gens de mauvaise vie. Il a lui-même eu une mauvaise vie. Et voilà, maintenant on fait la fête pour lui. » Je prie de ne pas être un frère aîné. En tout cas, pas dans ce type-là de personnalité. Je prie de ne pas être un élément qui soit plus réfractaire qu'accueillant face aux gens qui réintègrent l'Église. Je prie que toi et moi, nous comprenions qu'il est aussi de notre responsabilité de favoriser, de faciliter le retour à la maison de ceux qui réintègrent l'Église. Il est important que lorsque les gens reviennent à l'Église, et je vous ai déjà annoncé au début même de la pandémie que Dieu allait faire quelque chose, qu'il y a des gens qui allaient réintégrer l'Église, qu'il y a des gens à cause de la pandémie et à cause de l'apport de l'Église et de l'activité de l'Église qu'on fait actuellement, seraient amenés et confrontés avec un retour à l'Église. Alors assurons-nous que lorsqu'ils réintègrent le corps de Christ, que lorsqu'ils réintègrent le corps local que représente l'Église, qu'ils trouvent avec nous non pas un regard inquisiteur, non pas un regard rempli de jugement, non pas un regard rempli d'appréhension, voire même de dégoût, de dépit plutôt par rapport à eux, mais qu'ils trouvent un regard aimant, qu'ils trouvent des bras pour embrasser, qu'ils trouvent un cœur chaleureux, qu'ils trouvent des paroles douces et accueillantes de notre part. Dernier point qui est important. Un retour à la famille, c'est aussi un retour à la vie participative et à la vie active de la famille. Lorsque le père remet l'anneau au doigt de son fils, il est en train de dire « Voici une personne qui est maintenant en autorité, qui est rétablie dans son autorité. » Mais ce n'est pas une autorité pour avoir de l'autorité. Ce n'est pas que je claque des doigts puis quand j'ai soif, mon serviteur vient me porter à boire. Je claque des doigts, je veux telle saveur de chips, donc va au dépanneur m'acheter telle saveur de chips. Et si tu reviens et que j'ai changé d'idée par rapport à la saveur que je voulais, je te renvoie pour que tu me ramènes d'autres croustilles. Non, ce n'est pas ce genre-là d'autorité. C'est le genre d'autorité qui conduit un travail. C'est un genre d'autorité qui guide une équipe de travail. Ça veut donc dire que lorsque je reviens dans la maison de mon père, je redeviens aussi actif dans l'œuvre de Dieu et dans le travail servant à faire avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est parfois l'étape la plus difficile. Oui, il y a eu ce premier contact, avoir le cran, avoir l'hardiesse de retourner à la maison, avoir le deuxième pas qui est le père, mais aussi les autres frères et sœurs qui accueillent chaleureusement le fils prodigue. Mais à un moment donné, il faut permettre aussi à ce fils prodigue de se remettre en action et il faut que ce fils prodigue se remette en action. Si éventuellement je revenais habiter chez mes parents, ça n'arrivera pas, mais si dans un monde, dans un monde imaginaire, je retournais habiter chez mes parents, ben je redeviendrai actif dans la maison de mon père aussi. En fait, quand vous allez chez des amis, la plupart du temps, si vous avez été bien appris, je ne dis pas bien élevé parce que parfois on a été bien élevé, mais on a mal appris la leçon. Mais lorsqu'on a certaines règles d'éthique, certaines règles de politesse, on offre notre service à la maison qui nous accueille. Lorsque le repas finit, on dit « je vais t'aider à débarrasser » ou « je vais t'aider à faire la vaisselle » ou « est-ce que tu me permettrais de préparer, laisse-moi servir le thé, laisse-moi servir le café » Mais on se rend actif. Donc c'est peut-être une toute simple petite tâche au départ, mais avec le temps, cette tâche-là s'amplifie. À un moment donné, si ça fait plus de 2 semaines que tu es chez les gens, peut-être que tu vas dire « aujourd'hui, laissez-moi préparer le dîner, je vais vous préparer un petit quelque chose de spécial qui vient de chez moi ». Donc tu finis par être actif et plus tu vis longtemps dans la maison, plus tu deviens tout simplement aussi une part à l'activité générale de la maison. Donc le retour à la maison de Dieu, c'est oui se remettre sous la tutelle de Dieu, se remettre sous l'autorité de Dieu, c'est se remettre dans le fait de fraterniser, d'avoir des contacts et d'avoir une intimité qui se développe avec nos frères et nos sœurs, mais de surcroît à ça, c'est aussi un retour au travail de Dieu. C'est aussi un retour au service de Dieu. C'est aussi un retour dans cette œuvre qui cherche à faire avancer le royaume de Dieu. Donc, tu ne peux pas retourner à l'Église et te tourner les pouces. Tu reviens à l'Église, tu reviens à Christ, tu reviens à la famille spirituelle et tu vas aussi voir comment tu peux contribuer à l'avancement et à l'activité. Donc, avec une vie participative et une vie active au sein de la famille. Le retour à la famille, ce n'est pas un retour au Club Med. C'est un retour à un organisme qui travaille, qui avance et qui cherche à avancer. Et lorsque tu reviens dans cette famille, tu pousses toi aussi, tu mets l'épaule à la roue et tu pousses avec tes frères, avec tes sœurs et avec le Seigneur notre Père, tu pousses vers l'avant pour que l'Église avance. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Donc un retour à la famille, un retour vers notre Père, vers son autorité, un retour à notre soumission par rapport à Dieu, un retour au sein de la fratrie, donc savoir que je ne peux pas être dissocié du corps de Christ, je ne peux pas retourner à Christ sans retourner à l'Église. Nous, en tant qu'Église, en tant que membres de l'Église, qu'on soit aussi des agents d'accueil et non pas des agents réfractaires comme le frère aîné dans la parabole du fils prodigue. Et enfin, en retournant à la maison de mon père, en retournant à la famille de mes frères, mes sœurs et de mon père, je redeviens aussi actif dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Tu ne peux pas être membre d'une famille et ne pas contribuer à l'avancement de cette famille. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier, après quoi on va saluer quelques personnes, si je suis capable de voir, qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette possibilité que tu nous accordes encore aujourd'hui. Si on s'était éloigné, si on avait bifurqué de voie, cette occasion que tu nous donnes encore de rentrer à la maison. Et nous comprenons que ce retour à la maison, c'est un retour à la soumission à ta parole, à la soumission à ta personne, à la soumission à ta volonté. Mais de surcroît à cela, c'est aussi un retour à l'Église locale, à la famille locale, au corps local que représentent nos églises respectives. Et on comprend, Seigneur, qu'un doigt ne peut pas vivre détaché du corps. On ne peut pas vivre, Seigneur, à l'extérieur du corps de Christ, simplement attaché à la tête. Nous devons, Seigneur, être attachés, liés les uns aux autres à travers l'Église que tu bâtis et que tu as toi-même, Seigneur, initiée. Alors, Seigneur, permets-nous, à ceux qui sont déjà à l'intérieur de l'Église, d'être des agents d'accueil, des agents de réintégration, des agents de restauration auprès du fils ou de la fille prodigue. Et donne, Seigneur, à celui-ci ou à celle-ci l'hardiesse de passer outre ses inhibitions ou ses appréhensions et ses craintes pour venir goûter la joie d'être de nouveau rassemblés, tous unis dans le corps de Christ. Mais aussi, Seigneur, retourner à la maison, c'est retourner à une vie active dans ton royaume, une vie active dans ta famille, une vie active, Seigneur, cherchant à pousser de l'avant l'avancement du royaume de Dieu. Alors nous comprenons que nous ne sommes pas venus à l'Église pour chômer, nous ne venons pas à l'Église pour nous tourner les pouces, nous venons à l'Église pour être des agents participatifs, des agents actifs dans l'œuvre de Dieu, au sein du corps de Christ, dans son ensemble, mais aussi au sein du corps de Christ que représente l'Église locale. Alors parle à ma sœur ce matin, parle à mon frère ce matin, et aide-les, Seigneur, dans leurs décisions et dans leur cheminement avec toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on va saluer quelques personnes. Je remonte un peu. Bonjour à Rachel. Bonjour à Ocilia et à Mona. Je ne sais pas si Chantal se connecte autrement ce matin ou si la sœur Catherine se connecte autrement, mais que le Seigneur les bénisse, elles deux aussi. Bonjour à Daniel. Cette fois-ci, c'est Daniel Le. À Daniel Long, que Dieu vous bénisse. Bonjour Farley. Bonjour Marie-André. Bonjour à Denise. Bonjour à Denise et Gérard aussi. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Maggie. Bonjour à Argelia. Bonjour à Ramon et Evelyne. Bonjour Nadège. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Myriam et à Donald. Et voilà. C'était ce que nous avions aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain. Demain, c'est journée de jeûne et de prière. Donc, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, on a deux rendez-vous demain, 8h30, comme d'habitude, notre temps de prière et d'intercession du matin avec la bénédiction matinale. Et puis, demain soir, 19h, notre temps d'intercession, comme à tous les vendredis soirs, avec un temps de requête. Donc, 19h, heure de Montréal. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. J'étais encore content de vous avoir avec nous aujourd'hui et on se retrouve demain. Bonne journée à tous!